Bonsoir à toutes et à tous et bonne rentrée sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles qui donne la parole aux actrices et aux acteurs des transitions écologiques et solidaires de Marseille et sa région en partenariat avec Écoforum et l'Arbre des Imaginaires. Nous sommes le mercredi 13 septembre 2023 et sommes en direct de 19h à 20h. Vous pourrez retrouver l'émission en rediffusion demain jeudi 14 septembre de 9h à 10h sur Radio Galère, ainsi que en podcast sur radiogalère.fr dans la rubrique Écoforum et sur les plateformes Deezer et Spotify. Nous le constatons tous les jours, notre société fait face à des défis majeurs. Le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la raréfaction des ressources et les inégalités sociales sont autant de menaces pour notre avenir commun. Ce constat nous pose question et nous invite à nous réinventer. Vous qui nous écoutez, vous devez sans doute vous demander ce que vous pouvez faire à votre échelle pour y répondre, surtout quand ces questions paraissent loin de certaines priorités plus urgentes que vous pouvez avoir. Et quand bien même vous êtes déjà engagé, vous demandez probablement comment relier entre elles les initiatives qui existent déjà pour être à la hauteur. En somme, les questions que nous nous posons sont de savoir où est-ce que nous allons et comment y aller toutes et tous ensemble. Pour y répondre, la Forêt des Possibles est une bouffée d'oxygène. Semaine après semaine, nos invités tissent une société où vivre dignement aujourd'hui comme demain. Ils présentent des projets à la fois souhaitables pour les humains que nous sommes et soutenables pour le vivant qui nous entoure, c'est-à-dire des projets qui répondent à nos problématiques du quotidien sans dépasser les limites physiques de la planète. Surtout, la Forêt des Possibles est une invitation à ce que chacun et chacune d'entre nous prenne sa juste place dans une société désirable et ce, d'où que nous venions. Avec vous, chères auditrices, auditeurs et invités, nous questionnons les passages d'échelle de l'engagement, du moi au nous et du nous au tout. C'est-à-dire qu'à l'échelle individuelle, vous allez très prochainement, dans les prochaines minutes, nous partager, Caroline et Alara, la grande diversité de vos parcours et témoigner des questions que vous avez pu vous poser, ainsi que les besoins que vous avez dû enraciner. À l'échelle collective, les projets qu'on présente toutes les semaines, et ce soir cette itinérance, sont autant de témoignages d'aspiration ayant donné du fruit pour répondre à des besoins spécifiques des communautés qui nous entourent. Et à la question de l'échelle de la société, toutes ces personnes et initiatives que nous recevons ne sont pas seules. Mais encore faut-il se retrouver dans cette jungle où on peut parfois se sentir un petit peu perdu, en concurrence ou insuffisamment coordonné. En mettant en lien et en cohérence les initiatives que nous recevons à la radio, la Forêt des Possibles enracine l'adaptation du territoire marseillais et trace les imaginaires d'une société désirable. Oui, tout cela est possible. Et ce soir, pour en parler, nous recevons Caroline, bonsoir.
Bonsoir.
Et Alara, bonsoir.
Bonsoir.
Pour présenter Itinérance. Et pour finir de faire une petite présentation, nous avons en studio Gilliane. Bonsoir Gilliane.
Bonsoir à toutes et à tous.
Et en régie, Chloé.
Bonsoir.
Bonsoir Chloé. Et pour ce qui me concerne, je suis Marin. Et donc ce soir, nous allons pouvoir présenter le projet de Itinérance. Mais avant de présenter ce projet, on essaie un petit peu toujours de se projeter dans vos parcours, histoire que celles et ceux qui nous écoutent, les auditeurs et les auditrices qui avaient allumé Radio Galère, puissent un peu s'imaginer, se projeter dans des parcours qui leur ressemblent ou pas, et se dire que pour eux aussi, c'est possible d'entrer en transition. Est-ce que l'une d'entre vous veut débuter pour se présenter ?
Ok, je veux bien commencer. Donc je suis Caroline, je suis marseillaise. Pour mon parcours, j'ai étudié la mode à Paris et le design textile. Ensuite, j'ai travaillé dans plusieurs maisons, dans le cinéma. Et après, j'ai rencontré Alexia Tronel, avec qui j'ai cofondé l'association Itinérance Méditerranée. Et on a monté une marque responsable et engagée ensemble, qui était les prémices de l'asso, qui s'appelait Atelier Bartavel en 2013, et ensuite cofondé l'association en 2018, Itinérance.
Alors l'association, on en parlera juste après. Est-ce que là, pour rester vraiment sur toi, tu veux partager les grandes valeurs et les grands rêves, les grandes aspirations qui ont toujours été les tiens?
Oui, j'avais une référence quand j'étais ado. C'était un réalisateur qui s'appelait Tony Gatliff, et j'avais vu un documentaire qu'il avait réalisé qui s'appelait Latchodrome, qui retraçait la route des gens du voyage, des nomades, en partant du Rajasthan, en passant par les Balkans, l'Afrique du Nord et le sud de l'Andalousie, puis de la France. Et en fait, c'est un film qui est resté un peu dans mon esprit, parce qu'il allait à la rencontre de communautés qui avaient vraiment une culture qui était différente de celle que moi, en tout cas, je pouvais avoir. Et ça m'a toujours donné envie d'aller voir ailleurs et d'aller rencontrer des gens qui étaient sur d'autres manières de vivre. Mmh. Et disons que je dirais que c'est ça qui a un peu insufflé ensuite tout, qui a été un peu présent dans mes projets. Après, évidemment, quand j'ai fait mes formations, etc., et que j'ai commencé à travailler, il y a d'autres choses qui ont impacté mon parcours. Mais voilà, disons que la base, c'était un peu ça.
Alors, on ne connaît pas encore Itinérance, mais celles et ceux qui nous écoutent, je vous invite à avoir bien noté ce petit point, de se dire que finalement, dans quelque chose d'assez intime d'un film qui t'a marqué, eh bien, il y a eu cette volonté de tisser des liens, tisser au sens peut-être propre comme au sens figuré, et surtout autour des pays de la Méditerranée, dans ce que j'entends. On aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette émission. Merci Caroline. Alara, est-ce qu'à ton tour, tu veux te rapprocher peut-être du micro pour te présenter à ton tour?
Ouais. Bonjour, moi je suis Alara. Du coup, mon parcours. Déjà, j'ai pu commencer en fait, qu'est-ce qui m'a amené ici à m'intéresser à l'artisanat, à son savoir-faire? C'est le fait que j'ai grandi entre l'Italie et la Turquie. Du coup, il y avait une présence constante de la valeur en fait donnée au savoir-faire. Du coup, ça a déjà donné une base, un intérêt pour sa beauté, aussi sa séduction et sa présence dans la vie quotidienne de ma famille et la mienne aujourd'hui, autant plus. Et le deuxième, c'est plus en lien avec mon parcours académique. Mmh. J'ai une formation en histoire de l'art à la Sorbonne, qui, au bout de 3 ans, je me suis dit qu'en fait, c'est une discipline en soi qui, pour utiliser le grand mot, est tout linéaire, institutionnalisé et occidentalisé. Du coup, je me demandais qu'est-ce qui est fait en dehors de ces grandes lignes. Et du coup, j'ai décidé de faire une formation en histoire aussi à l'Université de Bologne en Italie, où j'ai eu l'occasion de contextualiser plus d'un niveau historique, clairement, mais aussi politique, social, économique, les questions qui sont créatives et culturelles autour, en fait, en dehors de ce que j'ai appris en histoire de l'art. Du coup, c'était ça un peu la base. Et depuis, du coup, j'ai fait un lien entre l'histoire de l'art et l'histoire en m'intéressant sur la culture visuelle et matérielle. Ce qui touche, entre guillemets, l'artisanat et toute la production autour. Et clairement, ça m'a aussi engagée dans la question de sa préservation, surtout aujourd'hui dans notre société, et aussi sa transmission au grand public, bien sûr.
On entend donc différents points. Le premier, c'est la question du savoir-faire, de l'artisanat. Le deuxième point qu'on entend, c'est vraiment les liens entre différents endroits de Méditerranée, que ce soit en Italie comme en Turquie, et après le rapport à l'art, et le rapport art-histoire, histoire, et puis les interactions qu'il peut y avoir entre les deux. Donc ça, c'est un peu autant de teasers sur vos parcours personnels qui vous amènent à avoir créé, pour ce qui concerne Caroline, et puis pour toi, Alara, rejoint le projet d'Itinérance. Est-ce que vous voulez que je lise la description que vous en donnez, ou est-ce que tu veux directement y aller?
Non, vas-y, tu peux la lire.
Bon, donc c'est la présentation que vous donnez sur Internet. Hein. Donc, depuis 2018, l'association Itinérance fédère une communauté d'artisanes, d'actrices et d'acteurs du changement en Méditerranée. Par le geste du savoir-faire, Itinérance tisse des liens pour redonner ou tout simplement donner une visibilité, un pouvoir économique et créatif aux artisanes du bassin méditerranéen. Donc ça, c'est la description que vous en faites. Mais je vais quand même te laisser la parole pour le reformuler avec les mots que tu as envie de donner ce soir à la radio.
Peut-être que je reparle un peu de l'histoire de l'asso, comment carrément. On a créé ça, ouais. etc. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai cofondé une marque de vêtements avec Alexia. Donc Alexia Tronel, c'est un peu la clé aussi de l'asso. Elle n'est pas là ce soir parce qu'elle habite à Paris, mais elle a du coup un parcours dans le développement durable. Elle a travaillé dans plusieurs ONG à l'ONU. Et en fait, elle a organisé des conférences entre plein d'acteurs du développement durable et elle s'est aperçue, donc ça c'était en 2011, je crois, autour 2010-2011, et elle s'est aperçue qu'en fait, il y avait assez peu d'acteurs du textile et de la mode qui étaient présents. Et elle a eu envie de monter une marque de vêtements qui était engagée et responsable. Et donc, elle a commencé son projet et elle cherchait quelqu'un pour faire la créa. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc, tout a commencé à ce moment-là avec Atelier Bartavel. Donc, on était responsables dans la manière de fabriquer nos pièces qui, du coup, on a travaillé avec des assos, Tissons la Solidarité ou d'autres, entre Marseille, Paris, voilà. Bon, pas toujours, mais on a essayé de le faire au maximum. Et après, sur la manière de sourcer aussi nos matières. Donc, en 2013, c'était pas trop la mode sustainable, comme on dit. C'était pas vraiment encore un peu le maître mot de toutes les marques. Donc, c'était un peu un challenge à relever. Et 4 ans après, on a fait un peu le point sur ce qu'on faisait avec Alexia au sein de cette marque et comment on voyait le projet évoluer. Et en fait, on a voulu aller plus loin et avoir un impact un peu plus fort. Et on s'est dit pourquoi on n'irait pas rencontrer des artisanes et co-créer vraiment des pièces avec elles en leur donnant la parole et en pensant à un nouveau design ensemble en partant de leur technique. Et nous, du coup, enfin moi avec mon regard de designer, de documenter tout ce processus de création par des photos, des vidéos. Et bon, ça s'est fait au fur et à mesure. C'était pas du tout aussi clair quand on a commencé. Mais donc voilà. Et ensuite, de pouvoir en parler et le montrer. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, la première édition qu'on a fait en Grèce, Athinos nous a pas mal donné d'espoir et nous a donné envie de continuer. Donc, c'est une association qui promeut et qui valorise l'artisanat donc sur le territoire de la Méditerranée. Et on a 3 missions aujourd'hui qui sont la mission sociale, la mission culturelle et la mission pédagogique.
Alors ça, on aura l'occasion de pouvoir les creuser. Mais si on peut faire un petit commentaire qui est un peu en lien avec la philosophie de la forêt des possibles qui invite chacun et chacune à trouver sa juste place dans une société résiliente. On voit bien là le passage qu'on dit du moi au nous, où tu as ton parcours. Alors peut-être que ça pourrait être intéressant de présenter un tout petit peu celui d'Alexia également. Ouais. Et comment est-ce que vos aspirations réciproques se sont retrouvées pour faire ce projet commun qui en fait entre en écho avec ce que tu portais déjà avant. Donc la question du design, la question de faire des liens entre les cultures de la Méditerranée. Est-ce que tu peux un tout petit peu présenter celui d'Alexia peut-être?
J'ai peur de dire une bêtise. Très je sais rapidement. Qu'elle était à la fac et qu'elle a étudié. Tu sais, toi, Lara ou pas?
Bon, c'est pas grave.
Non, mais peut-être qu'on pourra l'écrire en commentaire. Ou...
Les absents.
Je veux pas dire de bêtises en fait. Du coup, comme ça remonte à il y a. Parce qu'on a 36 ans avec Alex, donc ça remonte un peu.
Ok.
Mais en tout cas, sinon, je peux parler du mien. Moi, j'ai fait la chambre à Paris, la chambre syndicale et les arts déco en échange, les arts décoratifs de Paris. Et Alex, je crois qu'elle était en sciences politiques à la fac, si je ne dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça.
Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de question piège. En tout cas, ce n'est pas notre intention. Et donc, tu disais qu'il y avait 3 piliers dans l'association. Ouais. Un pilier de mission sociale, une mission culturelle et une mission pédagogique. Est-ce que tu veux commencer par présenter ton premier pilier, qui est celui de la mission sociale d'itinérance?
Oui, oui, oui. Je dirais plutôt la mission culturelle.
Commençons par la mission culturelle.
Ouais. Donc, la mission culturelle, elle se fait grâce aux éditions qu'on co-crée avec les artisanes. Donc, pour le moment, on a pu réaliser 3 éditions. Une en Grèce, on a travaillé avec des femmes qui tricotaient, enfin qui tricotent toujours. Une en Tunisie avec des femmes qui brodent. Et une au Maroc avec des femmes qui teignent. Et, enfin, qui tissent de la laine et qui la teignent au henné. Donc voilà, donc la toute première, on est parti en Grèce sur l'île de Tinos et on a rencontré une communauté, enfin une association de femmes sur l'île, du coup dans les Cyclades. Et en fait, on avait été mis en lien parce que on savait qu'on cherchait comme artisanal tricot, on savait qu'il y avait des femmes qui tricotaient pas mal en Grèce. Et enfin, finalement, ça s'est un peu fait. C'est surtout des rencontres, comment on trouve l'artisanat avec lequel on va travailler, la communauté, etc. C'est vraiment un travail de repérage qu'on fait en amont avec Alexia, qu'on prépare toutes les deux. Et les gens qu'on peut rencontrer, qui peuvent nous parler d'endroits ou de gens qu'ils ont rencontrés. Enfin, voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas une méthode, mis à part le fait qu'on fait toujours une période de repérage pour aller rencontrer les acteurs du secteur de la mode, du textile, du design, de l'associatif, pour comprendre un peu mieux où est-ce qu'on met les pieds. Et ensuite, rencontrer... À chaque fois, on a rencontré aussi des écoles de mode. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à aller vers la mission pédagogique. Et ensuite, on retourne dans l'endroit où on a été après avoir validé avec les artisanes qu'elles étaient OK de travailler avec nous. Donc, elles sont rémunérées pour le travail qu'elles font. Et là, moi, je passe un long moment avec elles pour faire la production et co-créer avec elles.
Donc, quelle forme de production ?
Donc, la première édition, c'était des pulls qu'on a tricotés avec les femmes. C'était en référence un peu à un mythe. Autrefois, les marins d'Aran et plein d'autres gens, enfin plein d'autres communautés, ils avaient des pulls qui étaient tricotés de manière à ce qu'on puisse les identifier par famille. Donc chaque famille avait son propre point. Et du coup, le vêtement devenait une sorte de passeport textile. Et en fait, on a travaillé là-dessus avec les femmes de Tinos et on leur a demandé de travailler sur leur propre point, sachant qu'il y en avait qui tricotaient depuis l'enfance, qui avaient aussi appris cet artisanat-là pour se faire leurs propres vêtements, d'autres qui avaient appris un peu plus tard. Enfin, il y avait un peu de tout. Et donc chaque femme a pu, avec la contrainte de faire un pull, réaliser son propre pull avec ce passeport textile qu'elles avaient envie de transmettre. Donc ça, c'était la première édition. Donc moi, à chaque fois, je tricote aussi, je tisse, enfin je brode aussi, je teins aussi, je prends vraiment part au projet et je crée aussi des pièces, ce qui permet d'avoir vraiment un rapport horizontal avec les artisanes d'être dans cette co-création entièrement. La deuxième édition qu'on a fait en Tunisie, on a travaillé avec des brodeuses qui sont dans la région de Tataouine à Guermessa. Et là, on est parti d'un poème féministe qui a été écrit par Ouled Ahmed. Donc, c'était un homme qui était assez militant, qui est mort il y a peu de temps, mais voilà, qui a écrit beaucoup de poèmes, qui était très engagé, qui militait beaucoup. Et donc, on a travaillé avec un typographe, calligraphe, Ali Al-Masri, qui a redessiné exprès le poème pour le projet. Et c'est avec, après avoir placé le poème sur des chemises que j'avais dessinées, que je suis partie dans ce village dans lequel j'ai habité plusieurs semaines et que j'ai brodé avec les femmes en leur montrant un point qu'elles n'utilisaient pas initialement, mais comme elles étaient brodeuses, elles l'ont appris très très vite et elles se sont chacune approprié la technique. Et du coup, on a eu des résultats très différents sur chaque chemise, il y avait des points qui étaient différents. Donc là, on était vraiment dans la co-création aussi de ce projet. Et la dernière édition, donc Anti-Atlas, on est parti grâce à des amis qui travaillent déjà avec cette communauté de femmes qui s'appelle Memory, qui ont une asso qui s'appelle Memory Lab. Et donc on est parti dans un village de l'Anti-Atlas rencontrer une communauté de femmes qui tisse la laine du sirois, qui est un mouton local, et qui la file pour ensuite la teindre. Initialement, c'était des voiles de mariée qui étaient fabriquées avec cet artisanat-là, qui protégeaient du coup la mariée pour ce nouveau passage à une nouvelle vie, avec des symboles amazigh qui étaient dessinés dessus. Voilà. Donc nous, on a travaillé sur des motifs circulaires et on a fait des gilets et des étoles et des... Et quoi d'autre, gilets et une cape aussi. Et donc ça, on a pu le co-créer ensemble dans le village où aussi j'ai passé plusieurs semaines.
Donc des tisseuses en Grèce.
Non, tricotes.
Des tricoteuses en Grèce, des brodeuses en Tunisie et tisser pour le coup en anti-atlas.
Teinture végétale, ouais.
Teinture végétale. L'anti-atlas, d'un point de vue géographique, c'est...
C'est à l'est de Taroudan, donc c'est la région qui a été pas mal touchée. Mais heureusement, on a eu des nouvelles et les femmes, sont toujours là. Mais ouais, touché c'est par... le tremblement de terre.
Par le tremblement de terre, malheureusement.
Ouais. Et donc c'est une région qui est assez aride, assez sèche, dans laquelle on peut déjà voir un peu les impacts du réchauffement climatique. Et c'est pas évident, mais voilà, c'est un endroit qui est vraiment assez magique, assez particulier. Voilà, où on a pu rencontrer ces femmes qui nous ont accueillies et qui ont bien voulu partager avec nous ce savoir-faire Et donc, on a pu documenter. Vous pouvez voir sur notre site. Et on a eu la chance d'avoir une exposition aux archives du MUCEM qui a présenté toutes ces éditions pendant 6 mois. Et où étaient projetés les films, il y a les photos et les podcasts.
Merci Caroline. Alors Alara, tout à l'heure, tu nous as vraiment dit que tu avais une aspiration particulière pour les questions culturelles, les questions artisanales et de lien entre les différentes cultures de Méditerranée. Donc cette mission culturelle d'itinérance, en quoi est-ce qu'elle elle rebondit ou elle fait un écho en toi? Et puis comment est-ce que tu trouves ta place à ton tour dans l'association?
Alors déjà, pour continuer un petit peu, maintenant je suis étudiante en master de recherche où je continue cette recherche sur l'artisanat, spécifiquement dans l'Empire ottoman jusqu'à la République. Et je suivais itinérance depuis un moment. La présence en ligne était forte, du coup, carrément, à travers les images qui, quand même, sont un outil très important dans la... on peut dire, dans la transmission des informations, ça a réussi à m'amener à leur page, à suivre un petit peu tout ce qu'ils faisaient. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de voir en fait comment les mêmes valeurs qu'on partage du coup avec Caroline, Alexia et Lorraine peuvent aussi être mis dans le terrain. Dans le terrain actuel, dans la société actuelle, moderne, et en fait, comment on peut travailler, et la question de la méthodologie, du coup, c'était important pour moi, parce que ça entre un petit peu dans le sujet de ma recherche, qui est autour de trouver les artisans, et du coup, après, comment travailler avec. Et ce que j'ai fait, du coup, en ce moment, à itinérance, déjà, il faut noter que je viens d'arriver... ça fait que toi, moi. Mais ce que je fais, c'est un peu la recherche, du coup, le repérage en ligne et via les différents outils documentaires des artisans. C'est qui est la première étape, en fait, dans la recherche. Et la deuxième, c'est le travail dans le terrain. C'est qui Caroline fait. Où c'est plus le travail de créer une connexion avec les artisans, etc. Du coup, tout ça englobe l'idée de... Parce qu'il faut le noter que l'artisanat, aujourd'hui, elle part avec déjà le mouvement de village aux grandes villes, en plus avec la présence de grandes industries, il n'y a plus cette valorisation du savoir-faire, sauf de designers ou de gens qui viennent un petit peu du milieu. Du coup, c'est un peu une question de comment préserver, identifier, préserver et transmettre cette culture au plus grand public. Du coup, ce qui m'intéresse en soi, c'est assez simple. C'est qu'est-ce qu'on peut apporter à travers la recherche dans les questions de aider toute la culture qui est en train de disparaître jour par jour, en fait, si on veut dramatiser un peu, mais c'est le cas.
Il y a une question de disparition et donc d'un enjeu de préservation qui est sur des questions de culture. Et la culture, elle est à la fois humaine et puis après, il y a la culture de la terre et puis de l'environnement qui nous entoure. Ça fait partie de ces questions un peu qui sont transversales chez Itinérance. Et puis nous, on est une émission quand même assez écologique. Donc ça, j'aimerais bien vous entendre toutes les deux sur les engagements vraiment écologiques que ça peut avoir. Et en matière culturelle, sur peut-être la promotion d'un imaginaire, d'un artisanat ancestral et en fait qui s'inscrit dans une préservation du vivant. Et puis vous avez une autre mission qui est pédagogique. Peut-être que via les aspects pédagogiques que vous développez, et j'aimerais vous entendre dessus, il y a une portée sur... la préservation du savoir-faire, la préservation d'un savoir-faire qui soit durable aussi. Est-ce que ça fait écho, ces questions ?
Oui, je pense que aussi en mettant en avant le travail de toutes ces femmes, on est amené à comprendre comment un vêtement est fait, le temps que ça peut prendre, pourquoi on essaie un peu de redonner de la valeur à tout ça. Bon, alors, ce qui est chouette, c'est qu'avec... les tendances entre guillemets de la mode responsable, etc. De plus en plus de gens commencent à être sensibilisés à la manière de consommer un vêtement, le consommer moins et mieux, voire beaucoup moins quoi. Et je pense qu'en documentant un peu tout ça et en rencontrant un peu toutes ces artisanes, c'est aussi en montrant leur travail, c'est aussi une manière de montrer que voilà, un vêtement, ça prend du temps à faire. C'est avec les films, on peut vraiment le voir que bah voilà, broder des chemises, ça prend 10 jours. Donc tout ça a un prix, tout ça prend du temps. Enfin, bref, c'est une manière aussi de sensibiliser un peu le grand public à toute cette industrie qui est ultra polluante. Et du coup, je dirais que l'impact écologique, il peut aussi être là avec l'asso. Parce qu'on travaille, donc, comme tu l'as dit, avec la mission pédagogique aussi. Donc là, on travaille avec des étudiants. Donc on a monté un workshop. Le tout premier, c'était avec les étudiants des arts décoratifs de Paris et le MUCEM, avec qui on discutait depuis quelques mois, à savoir comment on allait pouvoir collaborer avec l'association. Et en fait, j'ai reçu un mail des étudiants qui nous ont dit, voilà, on a un projet de partenariat sur un semestre, on aimerait choisir le projet avec lequel on veut collaborer. Et donc, on aimerait bien savoir si ça vous dirait de travailler avec les étudiants et l'ENSAT. Donc, on s'est dit, ah bah super, c'est une super belle chance de pouvoir échanger avec la future génération. Et là, je me suis dit, bah, pareil, le MUCEM, il y a quelque chose à faire avec eux, travailler sur leurs archives, parce qu'ils conservent donc les savoir-faire et l'art populaire du bassin méditerranéen. Et on pourrait partir d'un projet qu'ils conservent et faire travailler les étudiants dessus. Donc, du coup, je glisse dans la mission pédagogique, si ça te va.
Bien sûr.
Oui. On a travaillé sur le thème des ex-voto. Les ex-voto, c'est le concept de demander ou de remercier qui est caractérisé par plusieurs typologies d'objets. Donc c'est une pratique votive qui est populaire, j'insiste là-dessus, parce que ça a été beaucoup repris dans la religion, mais à la base c'est populaire. Même depuis la nuit des temps, les humains ont toujours remercié quelque chose au-dessus d'eux. Ceux qui étaient spirituels en tout cas. Ça s'est manifesté par plein de choses et notamment par donc les ex-voto que le MUCEM conserve, en conserve beaucoup. Donc ça peut être des peintures.
Un ex-voto ou une ex-voto, qu'est-ce que c'est ?
Un ex-voto. Ouais. Donc c'est l'ex-voto, c'est le concept de remercier ou de demander. Et qui est du coup caractérisé par des objets. Donc il y a par exemple les marins qui ont, parce que c'est une tradition qui remonte, les marins qui par exemple ont eu un naufrage mais ne sont pas morts, ils ont offert un tableau, une peinture marine, il y en a plein dans la Notre-Dame de la Garde, pour remercier Dieu. Voilà. Après il y a aussi les parties du corps en Italie, qu'on retrouve beaucoup en Grèce aussi. Donc c'est des plaques en métal argenté qui représentent soit une main, soit un pied, soit une jambe, soit un cœur, et qui sont fabriqués du coup en Italie et en Grèce. On en retrouve aussi en Pologne. Enfin, il y a plein d'endroits où on en retrouve. Il y a aussi des plaques de marbre qui ont été gravées avec des remerciements. Enfin, il y a vraiment plein de choses, et c'était un terrain de jeu assez intéressant parce qu'il n'y avait pas trop dans le textile d'ex-voto. Il y a des ex-voto même en biscuit qui étaient offerts, pareil, pour remercier des divinités par des personnes qui avaient eu soit de la chance sur un accident, soit qui demandaient une guérison ou quelque chose comme ça. Mmh. Et donc, on a demandé aux étudiants de... Donc, il y a Raphaël Bory avec qui on a travaillé sur ce workshop et avec qui on a fait le commissariat d'exposition pour l'exposition Savoir-Faire, qui est intervenu, a présenté un peu toute l'histoire des ex-voto, du MUCEM, des archives du MUCEM, de ce qu'ils conservaient, etc. Et a fait le suivi d'un peu plus loin, mais quand même, avec du coup, pendant ce semestre-là, avec les étudiants. Et donc chaque étudiant a dû trouver un concept, qu'est-ce qu'il voulait remercier ou demander en 2020, donc du coup en plein dans le Covid, sachant qu'ils étaient par leur choix d'études peut-être amenés à travailler dans le secteur du textile. Donc là, eux, ils étaient designers textiles. Ils n'étaient pas forcément vêtements, mais bon, quand on invente un tissu, on le projette quand même dans un vêtement. Et donc, c'était intéressant d'avoir leur point de vue sur ce qu'ils avaient envie de remercier ou de demander, voilà, en 2020, qu'est-ce qu'ils avaient envie d'exprimer, et de leur donner la parole là-dessus, et de fabriquer des ex-voto en tissu avec des techniques d'artisanat qu'ils apprenaient à l'école. donc du tissage, de la broderie, de l'ennoblissement, de la sérigraphie, etc. Donc on a eu des réponses très différentes, on a eu des projets féministes, voilà, il y avait Jeanne qui voulait remercier un peu toutes les femmes qui avaient eu un impact sur notre condition aujourd'hui. Il y avait Violette qui voulait remercier ses parents pour tout ce qu'ils lui avaient donné. Et finalement, c'était des concepts qui pouvaient devenir un peu universels. Donc, c'était assez intéressant. Et chaque étudiant l'a caractérisé à sa manière et a développé toute une série d'exvotos. Et donc, en fait, c'était intéressant parce qu'on a pu questionner aussi les profs. Pourquoi, eux, ils transmettaient ces savoir-faire à ces jeunes qui, du coup, allaient aussi travailler dans l'industrie. Donc, pourquoi ils les transmettaient? Parce que c'est très artisanal. Ils ont de la chance aux Arts Déco. Ils ont vraiment des ateliers super avec des machines. Ils ont des tricoteuses. Ils ont vraiment une salle de sérigraphie. Enfin, c'est vraiment assez chouette. Et donc voilà, parler avec les professeurs, comment eux ils voyaient cette transmission, comment eux les étudiants ils se positionnaient dans un monde où voilà, ils sont confrontés à plein de choses, à cette pandémie, voilà. Donc c'est là qu'on s'est dit ok, super, il y a des vraies réponses, il y a un engouement de la part des étudiants, il faut qu'on aille plus loin sur ce workshop. Et donc, on a commencé à se dire qu'il fallait qu'on intervienne, si les écoles avaient envie, dans d'autres endroits. Et donc là, on est en train de travailler sur un workshop qui va se passer à Beyrouth, dans l'école qui s'appelle l'ALBA, qui est un peu une antenne de la Cambre qui a été montée il y a 10 ans, où on va répliquer ce workshop. Et là, les étudiants vont travailler avec des artisans locaux. Donc, on va un peu voir, il y aura sûrement, j'imagine, des artisans syriens. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Et là, ce sera ouvert. En plus, c'est une école d'art aussi, donc à d'autres secteurs qui ne seront pas que dans le textile. Donc, voilà. Et on est en discussion avec une école à Istanbul, l'IFA, et aussi peut-être avec l'IFM à Paris. Et juste, je rajoute un mini truc que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a Lorraine, qui est la troisième d'itinérance, qui a rejoint le projet il y a un an et demi maintenant, et qui nous a aidé à structurer l'asso et à aller plus loin, et qui nous aide sur les dossiers, parce qu'évidemment, une asso, elle vit, enfin notre asso, en tout cas, on vit avec des subventions. Mmh. Et
ça, on aura l'occasion d'en parler.
Voilà. Non, mais c'était juste que je voulais pas oublier Lorraine.
Non, mais tu as bien,
donc voilà,
bien raison.
Je la glisse parce que le workshop à l'IFM, c'est aussi parce qu'il y a Lorraine qui est passée par ce parcours-là. Et donc voilà.
C'est important de nommer tout le monde.
Oui.
Quand tu parles de ex-voto et de gratitude aux vivants, Chloé qui nous écoute probablement depuis la régie est une personne qui est toujours très portée sur ces questions de gratitude et de contemplation de l'univers qui l'entoure. Et il y a ce troisième pilier qu'on n'a pas abordé en première partie d'émission, mais qu'on va aborder en deuxième partie avec vous deux, Lara et Caroline, qui est la question de la mission sociale. Mais on va l'aborder un peu d'une autre façon, afin de rester aussi dans le temps qui nous est contraint pour cette émission si passionnante, où là, dans cette première partie, on a questionné la place du moi dans le nous. Donc, vous deux, avec vos parcours, quel est le projet que vous avez, que vous menez, qui est celui d'itinérance? Et en deuxième partie d'émission, on va voir comment est-ce que ce projet-là, singulier, en fait, s'inscrit dans des questions qui sont plus larges de société. Et donc, pour un peu les donner avant la pause, on va parler donc de la question de l'artisanal qui reste à l'échelle humaine, la valorisation du travail des femmes et notamment la valorisation d'un travail économique. Et c'est là où on va pouvoir reparler de cette mission sociale qu'on n'a pas le temps d'aborder en première partie. Et si on a le temps, on parlera de la question de tisser des liens au sens propre comme au sens figuré entre les cultures méditerranéennes. Mais tout de suite, c'est la période de la respiration de notre forêt. Et cette respiration, elle est musicale. Et je vous laisse nous dire ce que vous avez décidé de nous faire écouter ce soir.
C'est un morceau de Lena Platanos, qui est une chanteuse grecque. Et c'est un peu la première musique d'itinérance qu'on a mis dans un film qu'on avait fait. Et du coup, on l'a pas mal écouté. Et c'est vraiment le départ de l'assaut. Donc,
Eh bien, merci Cal, Roline et Alara. On se retrouve juste après la pause sur Radio Galère.
Τις εξιστορήσεις της ζωής σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά. Τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά. Γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού. Ανίκανο στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν μακριά δάχτυλα για να αγγίξουν τον αρχικό πόνο, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν τη χαρά. Το λέω ξανά. Στις εξιστορήσεις της ζωής σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά. Τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά. Γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού. Ανίκανος στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Τότε μόνο ξαφνικά και ορμητικά έρχεται η επιβίωση και με βάζει σε αναγκαστική απογείωση, σε ταχύτητα αμυντική, σχεδόν φωτός. Απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηρυδισμού και έτσι σε βλέπω, φίλε, εμάτινη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπαίκτη στην ίδια συγχορδία μαζί με μας, επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί το ονομάζουν ιστορία της ειδονής.
Vous êtes de retour dans l'émission de La Forêt des Possibles qui est faite en partenariat avec Écoforum sur Radio Galère au 88.4. Nous sommes toujours en direct avec Caroline et Alara où nous présentons toujours l'émission Itinérance avec Chloé et Gilliane qui sont en studio avec moi. Et après avoir parlé dans la première partie des questions de savoir comment est-ce qu'on peut prendre sa juste place d'un individu au collectif, on va voir ensemble dans cette deuxième partie comment est-ce que collectif que vous formez participe à transformer la société à son échelle en traitant de grandes thématiques de société. Et on va tout de suite commencer sur des thématiques qui ont lieu, enfin qui lient à la fois les questions écologiques et aussi les questions du travail et de la juste rétribution du travail. Avec Alara, tu avais un point que tu nous as présenté à la pause, enfin que tu nous as dit à la pause que tu voulais développer à l'antenne.
Oui, alors pour commencer, l'un des grandes thématiques qu'on a aujourd'hui, c'est l'écologie. Et l'écologie, en fait, comment le mettre en lien avec l'artisanat ? Déjà, il faut savoir que tout ce qui est considéré comme artisanat, ce qui est archivé ou non pas archivé, ça vient d'une connaissance à partir de la terre qui est environnante de l'individu ou la communauté d'une culture. Du coup, déjà, de base, il y a ce respect envers son environnement, son utilisation directe pour, en fait, travailler avec. En fait, c'est une unison entre la terre, le savoir-faire et l'homme. Et depuis, en fait, l'industrialisation, du coup, depuis plusieurs siècles, on a eu une perte de ce savoir-faire et avec ça, l'émergence de grandes industries qui font en fait exactement l'opposé. En fait, on a aujourd'hui ces industries dont une grande partie de notre société fait partie, parce qu'on est quand même une société capitaliste. Aujourd'hui, en fait, c'est un structure en fait qui fait pas, qui donne pas respect à la terre, ignorent ces savoir-faire qui sont immatériels, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a une différence entre le savoir-faire immatériel qui vient en fait d'une connaissance transmise de génération en génération et matériel. Aujourd'hui, on n'est que dans le matériel. En fait, tout ce qui peut être monté avec un produit finalisé. Et ces savoir-faire immatériels qui en fait encadrent toujours son environnement, donc l'aspect de la terre, est en train d'être perdu. Et ce qui entre dans la pédagogie, c'est aussi du coup, dans tout ce qui englobe itinérance, c'est l'idée de travailler à préserver ce qui est immatériel. Du coup, en faisant des projets, travaillant avec des écoles, avec des étudiants, en fait, tous ceux, la jeunesse qui, dans le futur, en fait, peut travailler avec et créer tout un réseau. En fait, c'est ça ce qui est important, c'est un réseau qui peut créer la continuité de ces savoir-faire, toujours dans le respect de la terre et de l'artisan, de la communauté. Ça, c'est toujours très important à noter. Du coup, l'autre question, c'est les femmes.
L'autre question, c'est aussi comment vivre dignement pour continuer à préserver sur le long terme ce savoir-faire matériel dont tu parles.
Comment vivre dignement
Donc, d'en travailler, d'être payé pour le faire. Mais tu voulais continuer ton point.
Sur les femmes et après je rajouterai.
Ok. Du coup, la question économique, ça va être Caroline. Mais pour continuer avec les femmes, les femmes, en fait, du coup, c'est assez intéressant. J'avais lu un article. Malheureusement, j'ai pas les références, mais ça va arriver bientôt. À la fin de la session, ça va d'un coup sortir. Qui parlait en fait de l'idée que dans toute cette question de matrimoine, si on veut entrer dedans, en fait. On connaît le patrimoine, la définition du coup, c'est tout, c'est qui, c'est en fait l'archive de tout ce qui crée une culture. Le patrimoine de ces pays, de l'autre pays, c'est coupé entre les lignes de ce qui, en fait, géographiquement désigne le pays. Par contre, on ne fait pas référence au patrimoine. Ce n'est pas qu'un jeu de mots, c'est en fait l'idée que les femmes, c'est elles, socialement et culturellement, qui englobe ce savoir-faire immatériel. Parce que ça arrive, en fait, pas... Culturellement, en fait, c'est les femmes qui étaient plus basées dans le savoir-faire qui est lié au textile ou qui est lié, en fait, à une manière de produire un objet qui vient pas d'une utilité, pas toujours, en tout cas, mais plutôt d'une continuation de ce qui est fait, par exemple, par des marins dans le... Par exemple, donnons quelque chose de plus concret, parce que sinon, ça va un peu tôt dans le... le Maya de Luanco, du coup, c'est une dentelle magnifique qui est basée en Espagne. Et le Maya de Luanco, c'est fait à Luanco. C'est un petit village portuaire. Et les hommes qui étaient... qui travaillaient du coup à travers ce réseau que la mer a donné accès, pour dire. En fait, ils avaient besoin de différents matériels. Et les femmes, en fait, elles faisaient ce qu'on appelle, désolé pour mon français, mais le fishing nets, parce que je ne connais que le mot en anglais, que les femmes appellent...
Les filets de pêche.
Oui, merci beaucoup. Les filets de pêche, qui appellent les femmes, en fait, pour les réparer, on replie et on commençait à faire des dentelles avec. Et ça, c'est une continuation de ce savoir-faire qui va de matériel, du coup, qui a une utilité, à quelque chose d'immatériel, que c'est un savoir-faire qui est continu, mais qui n'est pas préservé, parce que finalement, ça n'a pas une utilité directe. Et aujourd'hui, en fait, c'est une société où on a un objet et une utilité. Et ça va rarement de l'autre sens. Du coup, les femmes, c'est tout le savoir-faire immatériel, c'est tout le patrimoine et itinérance, c'est qu'il essaye de faire et de préserver et de transmettre ce savoir-faire et de travailler avec ses artisans et pour pouvoir en fait lui donner la capacité de pouvoir continuer dans la société actuelle parce qu'on est quand même une association, on ne va pas changer le monde, c'est pas par petit pas.
Changer à votre place.
Voilà. Et c'est step by step et du coup c'est une première action en fait de lui donner le moyen. Les moyens de pouvoir continuer à préserver et travailler avec, parce que c'est quand même une tradition.
Et en matière d'imaginaire, on entend bien une distinction entre le patrimoine de pater, qui est plus lié à l'homme, et là, le mot que tu emploies, qui est sur du matrimoine, et le fait que ça ne renvoie pas tout à fait aux mêmes choses, et notamment ce que tu viens de développer sur tout ce qui était la culture immatérielle et la façon de le faire perdurer dans notre matrimoine commun. Et donc ça, j'espère que ça pourra éveiller des graines de conscience de celles et ceux qui nous écoutent. Et sur la façon de le faire concrètement, sur des questions qui ont allié à des aspects du quotidien, il y a le fait de pouvoir vivre dignement de ce travail-là et de cette préservation de ce matrimoine-là. Et donc, ce que tu disais à la pause de Caroline, c'est que c'était en travail au sein de l'association. Et c'est tout à fait OK que les choses soient en travail et non pas arrivées à destination. Sinon,
oui, on n'a pas encore réussi, mais on y travaille et on... Donc voilà, l'idée c'est la mission du coup un peu économique, c'est d'apporter des revenus complémentaires à ces femmes en les mettant en lien avec soit des maisons de prêt-à-porter de luxe qui peuvent se permettre de co-créer avec elles des séries sur une collaboration pérenne, au mieux. Donc on a fait pas mal de rendez-vous avec des maisons, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment... Il y avait vraiment un intérêt pour le projet, mais ils sont encore, en tout cas certains, sur ceux qu'on a rencontrés, sur des vitesses qui sont trop rapides, parce que Fashion Week, printemps-été, automne-hiver, on va pas rentrer dans ce débat, mais donc pas encore d'accord, enfin pas encore possible de prendre le temps de co-créer avec ces femmes, de s'adapter à leur timing, etc. Mais on y croit parce que on vient d'avoir une fondation, la fondation Pouch, grâce à Lorraine qui a pas mal travaillé là-dessus. Et du coup, là, on va voir ce qu'on arrive à faire avec eux. Mais donc, ils ont des marques de luxe dans leur groupe. Et on aimerait proposer un projet de co-création, puisqu'ils nous soutiennent, avec un artisanat espagnol. Et donc, Alara, comme elle le disait tout à l'heure, fait une recherche sur ces artisanats-là qui perdurent encore et qui sont encore pratiqués. Et du coup, une marque de prêt-à-porter haut de gamme. Donc ça, c'est vraiment une mission qu'on aimerait réussir à mettre en place. Pour le moment, on avance sur la mission culturelle et de la sensibilisation et la mission pédagogique avec toute cette documentation, ces institutions muséales qui sont partenaires. On a été soutenus par la Maison Mode Méditerranée qui nous a aidés pour la mission pédagogique au Maroc. On a aussi travaillé avec une école à Casa. Donc la mission économique est en cours et on espère que ce sera le virage aussi de l'asso, de réussir à apporter des commandes et de adapter au mode de vie de ces femmes en respectant qui elles sont et la manière dont elles vivent.
Et le but de notre émission de Forêt des possibles étant de montrer que il est possible de tisser un monde résilient. C'est intéressant de questionner quand même cette question économique qui est celle du nerf de la guerre et donc de pas non plus donner l'impression que voilà, tout est facile, oui, et que l'argent tombe du ciel et que les projets n'ont plus qu'à se réaliser, mais que c'est des questions qui se posent et que ça avance avec des rythmes qui peuvent paraître plus ou moins contraignants selon l'endroit où on se place.
Ouais, en fait, on a pour être clair sur le modèle économique de l'asso, on commence à se rémunérer, mais c'est encore assez complémentaire, disons. Pendant 3 ans, on était bénévole avec Alexia, on a tout autofinancé avec la marque qu'on avait avant et la débrouille, on a eu des partenaires qui nous ont aidés comme Voyageurs du Monde qui nous a offert des billets. Enfin bref, on essayait toujours trouver un peu des arrangements avec les uns et les autres pour pouvoir mener à bien ce projet. Il y a le Fonds Maison Mode qui nous a soutenus financièrement et là maintenant la Fondation Pouch. On espère grandir et pouvoir donner encore plus de présence à l'asso. Et après, actuellement, on a encore toutes des jobs à côté, en complément, qui restent dans le cadre de ce qu'on fait. Moi, je travaille, j'enseigne, je travaille, enfin, je fais du stylisme, bref, je fais un peu, autour de la mode et du textile. Et Alexia, elle enseigne beaucoup aussi. Lorraine, pareil, elle travaille pour une marque de tissu. Donc, on a un peu toutes des boulots à côté pour pouvoir se permettre de travailler pour l'asso. Et à l'arrêt, un service civil. Du coup, depuis 3 mois.
Ouais. Et alors, pour ce qui concerne les femmes artisanes,
oui,
qu'est-ce qui, par curiosité, qu'est-ce qui permet de financer leurs activités de leur côté ?
Alors, elles pratiquent cet artisanat-là. En fait, c'est pas forcément un but commercial. Nous, on travaille pas avec des coopératives qui sont déjà établies. C'est vraiment des femmes qui ont un savoir-faire et qui le pratiquent dans l'intimité pour des fêtes, Après, au Maroc, c'était un peu différent. Elles en vivaient déjà un peu. Donc, en fait, elles... Attends, redis-moi ta question. Désolée. Comment elles subviennent à leurs besoins. Et ben, en fait, c'est des femmes qui déjà font 1000 rôles dans leur journée. Ce sont des mères, des femmes qui travaillent quand elles ont le temps sur leur artisanat, mais qui gèrent, enfin, en tout cas, dans toutes celles qu'on a rencontrées, toute la maison, et les maris travaillent quand ils peuvent. Parce que, par exemple, en Tunisie, c'était déjà compliqué avec le réchauffement climatique. Les hommes avaient de moins en moins de travail parce qu'ils ramassaient les olives et il y avait de moins en moins d'olives. Et pareil au Maroc, en Grèce c'était un peu autre chose, c'est plus saisonnier puisqu'ils ont beaucoup de boulot l'été avec le tourisme et un peu moins l'hiver. Donc en fait à chaque fois qu'on rencontre des femmes c'est des situations différentes, on peut pas trop faire une généralité sur comment c'est à chaque fois en fonction du village, des femmes, etc., de leur organisation. Et comme les cultures sont très différentes en fait à chaque fois c'est quelque chose de nouveau.
Ça touche à un concept qu'on aime bien développer dans cette émission qui est la permaculture de vie. Finalement, c'est un certain nombre d'activités qui sont en complémentarité les unes avec les autres et qui permettent à l'arrivée de vivre dignement sans que ça soit uniquement le seul pilier économique et l'argent que l'on va gagner à partir de ça qui va permettre de vivre à la fin, mais une somme d'activités complémentaires avec des groupes de personnes qui sont autour de soi pour répondre à des besoins matériels, des besoins psychologiques, des besoins relationnels et qui font qu'il est tout à fait possible de tisser une vie qui soit agréable à vivre sans que ça soit toujours par la rémunération économique que tout passe. Et je vais continuer avec ce rôle, avec ce mot de tisser, puisque ça va être la toute dernière rubrique qu'on va aborder lors des 5 dernières minutes qui nous restent pour cette émission, et qui est celle en fait de tisser des rapports entre les cultures méditerranéennes, parce que ça fait partie de ces enjeux un peu transversaux que vous avez, donc à la fois par le tissage artisanal et puis après le tissage des relations, des cultures, de l'histoire, un point qui t'est cher à Lara. Peut-être qu'on peut avoir 2 minutes chacune pour le regard que vous portez sur cette question. Lara, tu veux commencer ?
Bien sûr. Déjà, j'ai eu plusieurs fois commentaire en disant, parce que ayant grandi entre l'Italie et la Turquie, il y a plusieurs commentaires en disant « Ah, t'es l'enfant de la Méditerranée ». En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est, en fait, la Méditerranée, déjà, de base, c'est tout échange qui se passe à travers la mer qu'on connaît. Et en fait, c'est historique. Ça veut dire que pendant des milliards d'années, il y a eu un échange commercial, culturel, historique, dans le sens que, par exemple, si on regarde Sicile, où il y a eu plusieurs communautés et terres de ces communautés qui ont habité. Et la Méditerranée, en fait, c'est un espace partagé entre plusieurs cultures qui aujourd'hui sont divisées, mais quand même qui partagent plein de points en commun. Et ça, c'est quelque chose qui se sort dans l'artisanat, dans le savoir-faire. C'est comment habiter dans cet espace. Et en fait, c'est des manière de savoir vivre en fait qui est partagée par toute une culture, même si elle parle de différentes langues, en différentes habitudes de tradition. C'est un espace partagé et c'est ça en fait qui lie tout. C'est pour donner un petit peu d'introduction, c'est ça. Et du coup l'artisanat en tout ça, c'est en fait aujourd'hui on habite aussi. J'ai fait beaucoup de contexte historique, désolé, c'est un petit peu ma formation, mais
c'est pas t'excuser, c'est hyper intéressant.
Merci. en fait, on est toujours dans une société aujourd'hui où on se caractérise, on s'identifie selon notre passeport, entre guillemets. Et on ne se caractérise pas par en fait ce qu'on sait et on ne garde pas dans les liens qu'il y a entre ce que nous, avec les cultures, les traditions, les savoir-faire avec lesquels on est grandi, et ceux des autres cultures. Et je pense qu'il y a quand même une très grande importance dans cette relation transculturelle qui, dans l'espace méditerranéen, est très présente. Et ça, c'est un fait. Et du coup, itinérance, c'est ça, en fait. En travaillant dans plusieurs pays, en sortant de différents savoir-faire, ça, et en le transmettant, c'est aussi une manière de montrer ce qu'il y a dans d'autres pays et de montrer, et je suis sûre que quelqu'un, par exemple, qui écoute un podcast, regarde une vidéo YouTube ou qui suit le projet, va dire « Ah, en fait, dans le village d'où je viens, il y a aussi cette pratique. » Genre, par exemple, en Turquie, on a ce qu'on appelle le ikat, c'est qu'on le trouve dans, aussi en Espagne, par exemple. Et c'est une tradition qui continue à travers les échanges. Et c'est quelque chose qui est important à considérer dans la plus large ligne de comment cohabiter ensemble dans le monde actuel, où on a quand même beaucoup, beaucoup de en anglais, désolé, clash identitaire.
Mmh. Comment cohabiter au sein d'une Méditerranée où on est très fracturé, alors que, comme tu le dis, au-delà des différences de langue, il y a des points communs qui sont évidents. Merci beaucoup, Alara,
Elle a tout dit.
ce qui fait que Caroline...
J'ai rien à rajouter.
Je peux te laisser, puisqu'il reste une ou deux minutes, en fait, une conclusion. Conclusion à la fois sur votre projet, puis si jamais tu as des appels à faire, je te laisse le mot de la fin.
Déjà, s'il y a des gens à qui le projet parle et qui ont envie de nous partager des savoir-faire assez spécifiques, qui connaissent en Méditerranée des communautés qui ont besoin d'être valorisées ou qui n'hésitent pas à nous écrire soit sur Instagram, donc Itinérance Méditerranée, soit sur notre site ou sur nos mails. Parce qu'on est toujours preneuse de nouvelles informations, parce que c'est aussi, comme je le disais, quand on rencontre des gens, qu'on parle avec eux, et c'est comme ça qu'on rencontre les artisanes. C'est vraiment du bouche à oreille, parce que nous, encore une fois, on valorise des artisanats qui sont difficiles à trouver, qui sont loin. donc, j'aurais ça à dire pour les auditeurs et les auditrices. Et comme conclusion, je pense qu'il ne faut pas se décourager, parce que c'est vrai que on vit dans un contexte, dans un monde qui est assez complexe. Mais il y a toujours quelque chose à faire et toujours quelque chose à apporter et ça servira toujours, quoi. Donc, c'est un peu random comme message, mais en vrai, je crois que c'est important. Voilà.
Et j'avais envie de vous partager une phrase d'un livre sur les artisans, sur leur rôle, et notamment au Maroc, et qui fait beaucoup écho à tout ce que vous avez dit cette heure-ci. Je vous la lis. « Grâce à ceux qui captent et transforment les fragments d'un patrimoine millénaire, en véritables alchimistes de la délicatesse, ils façonnent par la répétition minutieuse de leurs gestes des merveilles sucrées, des boiseries ciselées, des tissages colorés, des parfums subtils venus des temps anciens. »
Je peux faire un mini commentaire. Je rajouterai patrimoine et matrimoine, du coup.
Exactement.
Voilà. Mais super beau. Merci beaucoup pour cette phrase.
Merci.
Merci Chloé. Merci Caroline Alara pour cette présentation d'itinérance passionnante.
Merci Marin de nous avoir donné la voix sur ton émission.
Marin et Gilliane qui est très attentif, voilà. Qui a un peu moins participé aujourd'hui, mais qui est quelqu'un de déterminant dans le projet. On rend l'antenne, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission Germes, où on va parler de la santé des sols et du fait que toute la vie de la biodiversité se trouve dans les 30 cm qui se trouvent entre la surface et juste en dessous. On n'en dit pas plus ce soir. Bonne soirée sur Radio Galère et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de La Forêt des Possibles. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Merci.